Laval et la mort de deux agents pénitentiaires.
Merci Cécile Mériot, on vous retrouve à 8h pour le prochain point sur l'actualité. À 7h32, Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est Benoît Sibille, enseignant-chercheur en philosophie, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, auteur de Défense du pain et du vin, c'est aux éditions Ad Solem. Il est membre de Lutte et Contemplation.
Le pain, le vin, le Christ, c'est l'événement qui a changé le monde. Oui, mais que fait-on quand le pain et le vin proviennent d'une terre morte, gavée d'engrais de synthèse, que les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent ne peuvent pas s'y aventurer ? Le monde artificiel que nous avons créé correspond-il à la création voulue par Dieu, l'agriculture qui fait son salon? C'est notre relation à la vie et au temps. Cette vision du « c'était mieux avant », avant que Prométhée dévore tout, cette vision un peu bucolique, faite de vignes, de levain, de vendanges et de pressoirs, tous ces mots de l'évangile, le progrès les a remisés sur l'étagère vintage de nos vies urbaines et, comme on dit, déconnectées du réel. Bonjour Benoît Sibille.
Bonjour Louis.
Pourquoi prendre la défense du pain et du vin? Quoi de plus banal, quoi de plus essentiel, cela
voilà.
Dit
Et exactement. Quoi de plus banal, quoi de plus essentiel? C'est les choses les plus triviales, les choses dont l'humanité, au moins l'humanité nomade, enfin sédentaire, pardon, a toujours eu besoin, voilà, de céréales et de boissons. Et c'est ce que Jésus a choisi pour être le signe manifeste de sa présence parmi nous. Donc ça me semble être quelque chose d'essentiel. Et pourquoi en prendre défense? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, derrière la réalité quotidienne du pain et du vin, il y a une terre qui meurt, il y a des agriculteurs qui se suicident, il y a des milliardaires qui s'enrichissent en vendant des semences, des pesticides ou des engrais, en accaparant les terres. Et donc, derrière cette réalité absolument banale, il y a un monde qu'on ne voit pas habituellement et qu'il faut questionner.
Et vous questionnez la Bible d'abord, le rapport à la technique et au temps.
Oui.
Est-ce qu'on peut faire un point là-dessus?
Oui, tout à fait. En fait, mon point de départ, c'est donc de dire, le pain et le vin avec lequel nous célébrons l'Eucharistie sont factuellement un pain et un vin de mort, c'est-à-dire que c'est un pain qui est cultivé, enfin c'est des céréales qui sont cultivées sur des énormes monocultures sur lesquelles il n'y a plus d'oiseaux, sur lesquelles il n'y a plus de haies, c'est un vin qui est saturé d'intrants chimiques, qui exploite une main-d'œuvre étrangère, et on pourrait, face à ça, quand je pose cette question-là, il y a une objection qui peut facilement venir dans l'esprit du croyant, c'est de dire, oui, mais ce qui compte, c'est qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ, et donc finalement, peu importe quel type de vin on prend en charge. Et c'est de là que je pose la question de la technique. Parce que il me semble que cette objection-là, dire ce qui compte, c'est que ça devient le corps et le sang du Christ, c'est une objection qui relève d'une pensée technicienne, c'est-à-dire une pensée qui pense qu'il y a d'un côté les moyens et de l'autre côté les fins, et que finalement les moyens importent peu, ce qui compte c'est la finalité. Donc en l'occurrence, le pain et le vin seraient un moyen que Christ a choisi, mais il aurait pu choisir autre chose. Et puis finalité, la présence réelle du corps et du sang du Christ serait le but. Et donc finalement, face à ce but-là, peu importe le type de pain et le vin. Et cette disjonction entre les moyens et les fins, propre à la pensée technique, me semble nous mettre dans une impasse complète d'un point de vue théologique, puisque à la fin, on arrive à quelque chose du type « la présence réelle du corps et du sang du Christ implique l'absence réelle au monde ». C'est-à-dire, on doit parfaitement se désintéresser du pain et du vin.
En fait, il ne faut pas tenir compte du résultat de nos actions, mais de nos actions elles-mêmes, dites-vous.
Exactement. C'est un point qui m'est venu, notamment par la lecture de Jacques Ellul, un théologien protestant, qui insiste sur le fait que le propre de la vie chrétienne, la vie dans le Messie, et ça y reprend là-dessus Saint Paul, n'est pas une sorte de souci de l'avenir, mais une souci du présent. Et c'est cette expression de Paul qui dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, le jour du salut. Et il me semble que le temps chrétien par excellence, c'est le présent. Au sens où, si vraiment, comme le dit l'Évangile, nous ne savons ni le jour ni l'heure, c'est-à-dire s'il s'agit de vivre sous le jugement de Dieu, le jugement de Dieu ne veut pas dire que Dieu va nous demander comment est-ce que ce que tu fais au présent concourra peut-être à la fin à quelque chose de bien. Mais comment est-ce qu'au présent, ma vie tient devant le regard de Dieu? Est-ce qu'au présent, elle configure un monde signifiant, un monde qui est le royaume de Dieu? Voilà. Penser dans une mentalité technique à dire ce qui compte, c'est le résultat à la fin, et donc finalement dire toujours en même temps le présent importe peu, donc finalement, peu importe si on dégomme la terre, ce qui compte, c'est qu'il y a le corps du Christ, mais dans une logique non théologique, simplement de dire, peu importe si aujourd'hui il y a un peu de chômage, ce qui compte, c'est qu'à la fin, les super réformes faire vont produire une société merveilleuse, vous voyez, cette logique-là, c'est une logique qui déréalise le présent. Et déréaliser le présent, c'est précisément du point de vue théologique, mais éviter, chercher à aider le regard de Dieu. C'est fuir le jugement en tant qu'il correspond à une exigence du royaume ici et maintenant.
Et Benoît Sibille, vous déniez le fait que la Bible s'inscrit dans une logique linéaire de l'histoire, ce que l'on a tendance à dire, puisque vous écrivez que loin de raconter l'avènement progressif d'un mieux, ainsi que vous le dites à l'instant, elle met en récit l'éternel retour du mal. Donc le présent, c'est aussi ce retour permanent du mal qui nous amène à réfléchir à nos actions telles qu'elles se présentent ici et maintenant.
Oui, tout à fait. Ça, c'est, il me semble que c'est une confusion habituelle sur la Bible, qui a des fondements, qui a des fondements historiques. De fait, la théologie chrétienne a souvent porté une théologie de l'histoire linéaire, continue, dans laquelle il y aurait une sorte de providence qui se révélerait dans le temps. Mais il me semble que cette idée est très peu biblique. C'est-à-dire que quand on regarde dans la Bible comment Dieu se révèle dans l'histoire, Dieu n'est pas celui qui confirme l'enchaînement des événements et qui se révèle progressivement. Vous voyez, Dieu n'est pas celui qui se révèle progressivement dans l'empire de Pharaon, par exemple. Dieu est celui qui interrompt l'histoire en appelant à la conversion. Et ça, c'est ce qu'on voit à chaque fois que
c'est
Dieu...
interruption et conversion.
Exactement. Interruption et conversion qui me semblent être les deux formes de la présence de Dieu dans l'histoire. Et donc, ça veut dire que contrairement à notre idée selon laquelle le christianisme aurait fait naître cette flèche de l'histoire orientée tant homogène qui irait vers un mieux, le christianisme me semble au contraire, et puis même la religion juive déjà, donc les religions bibliques, être des religions qui pensent l'avènement de Dieu comme interruption et conversion de l'histoire.
Il
la
ne faut
possibilité
pas non plus,
de rupture.
Il ne faut pas non plus, dites-vous, fuir nos responsabilités en reportant dans l'au-delà, en se consolant dans l'au-delà, la religion étant l'opium du peuple, en essayant de dire qu'en fait nos actions importent peu dans la mesure où ce qui compte c'est ce qu'il y a après la mort.
Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment cette logique de déréalisation du présent, je l'ai représentée d'abord par le langage technique, hein, donc elle nous fait fuir le présent pour dire ce qui compte c'est le résultat à la fin du processus technique, mais en fait ce modèle-là, c'est un modèle qu'on retrouve aussi dans la théologie et dans la religion chrétienne. C'est le modèle qui dit mais finalement le présent importe peu, ce qui compte c'est à la fin le royaume de Dieu, avec des images parfois très, très sympathiques qu'on entend souvent en pastoral. Du type, oui, alors on va raconter à quelqu'un qu'on vit des choses difficiles, et puis il va dire, oui, mais à la fin, Dieu retournera le canevas, et on verra que tous les fils entremêlés du canevas de notre vie, en fait, forment un magnifique dessin. Vous voyez, cette conception-là qui dit, mais finalement, peu importe le présent, à la fin, Dieu fait quelque chose de merveilleux avec ça. Alors, cette idée-là me semble très peu biblique. Que Dieu, dans la Bible, n'est pas celui qui nous dit, c'est pas grave, ce que tu vis, ça finira bien. Dieu est toujours celui qui dit, mais c'est ici et maintenant qu'il s'agit de vivre le royaume. Oui, et alors ça me semble. Enfin, le résultat, c'est que les humains que nous sommes aujourd'hui, nous avons affaire d'un côté à la technique qui nous assure un avenir merveilleux en déréalisant le présent, et de l'autre côté, souvent, un discours religieux qui nous assure une existence parallèle dans l'au-delà, qui elle aussi déréalise le présent. Et il faut retrouver ici, je crois, la radicalité de l'évangile qui cherche à nous ramener à l'ici et au maintenant.
Alors, comment justement exister de manière biblique, évangélique, dans ce monde technicien, eu égard à la question agricole, si on relie un petit peu les deux, eu égard au pain et au vin. Parce qu'il y a beaucoup d'objections qu'on peut faire. J'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, c'est un petit peu quand même du septième mieux avant, puisque vous nous dites que le progrès tel qu'on l'envisage aujourd'hui, tel qu'on en donne une définition, c'est-à-dire toute l'action de l'homme qui permet finalement de produire davantage, le produire plus, et d'ailleurs le ministre de l'Agriculture a dit qu'il fallait produire plus. L'idée productiviste, en soi, celle qui se fonde sur le progrès tel que nous l'avons échafaudé, eh bien, comment faire avec lui ? Comment faire avec lui ? Cette idée-là, elle nous a quand même permis de nourrir la planète. Qu'est-ce que vous dites quand on vous répond cela, Benoît Sébille ?
Alors, d'abord, deux choses. Il ne s'agit absolument pas pour moi de dire que c'était mieux avant. Et les auteurs critiques de la technique que je mobilise sont tous des auteurs qui insistent en permanence sur le fait que ce n'est pas du tout l'objet. Il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant. Il s'agit de dire autre chose. Il s'agit de dire que le monde dans lequel nous sommes, est aujourd'hui un monde qu'il s'agit de contester et de critiquer, d'interrompre au sens biblique du terme. Donc, ça ne veut pas dire que c'était parfait avant. Mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un mystère du mal auquel il faut s'affronter. Alors ensuite, pour l'objection selon laquelle l'agro-industrie aurait sorti le monde de la malnutrition et permettrait de nourrir le monde. C'est un discours historique qui me semble être à questionner d'un point de vue historique. C'est-à-dire l'idée selon laquelle, après-guerre, l'agro-industrie aurait sauvé la planète est en fait une idée très contestable. Ce qui s'est passé après-guerre, c'est qu'on a détruit une agriculture de subsistance. Il y a une BD magnifique qui vient de sortir le mois dernier qui s'appelle Champ de bataille, qui raconte ça. On a détruit l'agriculture de subsistance à travers ce qu'on appelle le remembrement. Donc, c'est-à-dire on a détruit des activités dans lesquelles les gens satisfaisaient leurs besoins à des échelles très locales pour mettre à la place de cela une agriculture économique. C'est-à-dire on ne produit plus des aliments, mais on produit des marchandises. Et c'est une transformation radicale de la situation. Donc, c'est faux de vouloir la décrire simplement en termes de quantitative. On produit plus de nourriture qu'avant. C'est-à-dire, on vend plus, on échange plus de nourriture qu'avant.
Mais Benoît Sibylle, auriez-vous refusé, par exemple, l'arrivée du tracteur, comme ça a été le cas avec les paysans quand le premier tracteur est arrivé? On a mis du temps à l'installer en France. Il venait des États-Unis, ce tracteur.
Alors, vous avez bien fait de rappeler qu'on a mis du temps, les agriculteurs ont eu du mal. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas du tout été accepté par le monde agricole.
Tout à fait.
Ça a été fait de manière extrêmement violente. De même que, avec le tracteur, la destruction des haies, l'agrandissement des parcelles, la redistribution des terres, etc. Alors, face à ça, je crois que la pensée de Jacques Ellul nous éclaire vraiment profondément. C'est-à-dire qu'il y a deux manières d'envisager une technique. Soit on envisage la technique du point de vue de son résultat. Donc on dit, bah, le tracteur est plus efficace pour retourner la terre, pour labourer la terre, que la charrue tirée par des bœufs. Voilà. Donc plus efficace. Première question. Et donc si on pose la question uniquement comme ça, on est dans un paradigme technique où la seule question qui existe, c'est celle de l'efficacité. Mais il faut poser une autre question. C'est que le tracteur ne fait pas simplement que de produire un résultat. Le tracteur configure un monde. Le tracteur configure un monde, c'est-à-dire modifie des rapports sociaux, modifie le rapport à la terre. Et c'est ça qu'il faut questionner. Alors je ne dis pas que le tracteur est nécessairement mauvais, mais je dis que chaque fois qu'on pose la question de la technique uniquement du point de vue du résultat, et qu'on oublie de se demander quel est le monde qui va avec le tracteur, mais aujourd'hui, quel est le monde qui va avec le tracteur guidé par satellite, quel est le monde qui va avec les sondes qui donnent en temps réel le taux d'irrigation, d'hydratation de la terre, etc. Voyez, c'est cette question-là qu'il faut poser. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on produit un monde dans lequel les agriculteurs se suicident, dans lequel les agriculteurs ne possèdent plus leurs terres, ne possèdent plus leurs semences, ne vivent plus de leur travail, dans lequel la terre est détruite, dans lequel la biodiversité meurt, et dans lequel, parallèlement, de grands industriels, de grands propriétaires s'enrichissent.
Quelle solution proposez-vous ?
Alors, l'objet de mon livre n'est pas directement de proposer des solutions. Et si on parle beaucoup ici de la question technique et agricole, c'est d'abord un livre théologique sur l'Eucharistie. Mais ce que je rappelle simplement dans mon livre, c'est d'essayer de j'essaye de réouvrir un peu notre imaginaire en rappelant tout simplement qu'à l'échelle de l'humanité, les humains ont vécu bien plus souvent sans le capitalisme mondialisé qu'avec. Et donc, l'idée selon laquelle on ne pourrait pas faire autrement, vous voyez, me semble être une idée très problématique, qui rejoint en fait cette idée selon laquelle l'histoire serait une ligne continue qui va dans une direction à toute vitesse et qu'on ne pourrait pas changer. Ouais, il me semble que précisément l'espérance chrétienne implique de penser la possibilité d'une interruption de l'histoire et d'une bifurcation.
Benoît Sibyl, on se souvient des famines terribles sous Louis XIV, peut-être 2 millions de morts dans les années 1710. Parce que on sait très bien, les spécialistes, je ne suis pas spécialiste du monde agricole, mais les spécialistes vous diront que les circuits d'approvisionnement, la difficulté à faire venir les biens agricoles, à les produire aussi, toutes ces distorsions ont pu produire des malheurs humains terribles, qu'on a résolus quand même par cette capacité à produire.
Oui.
Alors, est-ce que ça ne se retourne pas contre l'homme, en fait, ce que vous proposez ?
Qu'est-ce qu'on fait des famines actuelles ? Qu'est-ce qu'on fait des paysans qui ne vivent pas de leur travail ? Qu'est-ce qu'on fait de la biodiversité ?
Il y a plus de famine aujourd'hui chez nous.
Bah, si, il y a des gens qui meurent de faim. Alors, ils ne mangent pas de faim parce qu'il y a des mauvaises récoltes, ils meurent de faim parce qu'on les prive de ressources.
Mais on ne meurt plus de faim en France, quand même, Benoît
Sibyl. Alors, on a quand même une grande partie. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je viens de lire le rapport de Terre de Liens sur la question de la souveraineté alimentaire. On a une majorité de Français qui ne mangent pas l'alimentation qu'ils souhaiteraient manger. On a une précarité alimentaire qui est très importante. Enfin, vous voyez, la question n'est pas du tout résolue. Mais derrière, vous voyez, mon sujet n'est pas d'abord, parce que je ne suis pas du tout un technicien ou un spécialiste de ces questions du point de vue technique. Ma question est, vous voyez, de dire, et c'est Ivan Illich qui pose cette distinction, entre la pauvreté telle qu'elle existait dans le monde pré-industriel, c'est-à-dire une pauvreté qui repose sur le manque lié soit à des dominations politiques, soit à des aléas climatiques. Aujourd'hui, face à ça, il y a ce qu'Ivan Illich appelle nouvelle pauvreté. Cette nouvelle pauvreté consiste en une dépendance radicale de toute l'humanité à certaines institutions qui ont le monopole de la satisfaction des besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculteur d'Inde, de France ou d'Amérique latine dépend pour produire de semenciers sur lesquels il n'a aucun contrôle, dépend de producteurs d'azote de synthèse, dépend de mines pour extraire des minéraux pour la terre, etc. Vous voyez, il y a une sorte de dépossession de nos existences qui, parallèlement, produit un résultat qui me semble être le plus dramatique, c'est qu'il invisibilise complètement ce monde-là. C'est-à-dire que, de fait, les agriculteurs, les paysans, les paysannes ont disparu de notre univers.
Le localisme, c'est possible ?
Alors, on va éviter les mots en « isme », parce que qu'est-ce que ça veut dire, localisme ? De tout temps, les êtres humains ont circulé, de tout temps, ils ont échangé. Donc, la question n'est pas d'abord celle-là. Par contre, ce qui est tout à fait possible, et ce qui est même nécessaire, c'est ce qu'on appelle une économie de subsistance. Mais là, vous voyez, c'est même...
Mais ça, en fait, ça veut dire décroissance.
Ah, évidemment que ça veut dire décroissance. Mais il faut se dire une chose simple, c'est que le terme de décroissance est un terme qui a été inventé non pas pour dire « il faut que le PIB décroisse », mais pour dire il faut blasphémer en fait envers ce nouveau dieu qu'est la croissance. Donc la question n'est pas croissance ou décroissance, la question c'est on s'en fiche de la croissance. Allez, tout simplement parce que la croissance, c'est la manière très étrange dont l'humanité, ces deux derniers siècles, se rapporte au monde.
Mais que mesure-t-on vraiment, d'ailleurs ?
Et que mesure-t-on avec la croissance ? On ne mesure pas, vous voyez, avec la croissance, on ne mesure pas la qualité de nos rapports humains, on ne mesure pas toute la production vernaculaire, c'est-à-dire tout ce que l'on produit à des échelles non marchandes. Et donc, vous voyez, il me semble qu'il faut, il faut absolument sortir d'une sorte de fétichisme de l'économie qui nous ferait croire que rien n'existe en dehors de l'accroissement de la valeur.
Je me permets une petite considération politicienne. Si on vous écoute, en fait, ceux qui défendent la décroissance et d'une certaine façon une relocalisation de l'agriculture se retrouvent aussi sur des logiques un peu anti-mondialisation que partage une partie des identitaires. Vous voyez, il y a une sorte de recouvrement un petit peu là, non ?
Alors, non.
Contre la mondialisation.
Je ne crois vraiment pas qu'il y ait de recouvrement sur ces questions-là. Ce que je vois très concrètement sur le terrain, moi j'habite en zone rurale, hein, j'habite en Bourgogne, je vois très concrètement des gens engagés dans les luttes paysannes, des gens qui défendent une agriculture paysanne, locale, distribuée en circuit court, nourrissant leur territoire. Pour ces gens, il y a une opposition au traité économique, il y a une opposition au Mercosur, mais pas que le Mercosur, hein, le Mercosur n'est que le énième traité de libre-échange. Mais plus fondamentalement, derrière ça, il y a l'idée de la possibilité de se réapproprier nos existences avec les gens qui passent par là. Vous voyez, dans mon territoire, il y a autour de Dijon énormément de migrants qui arrivent et qui se réinsèrent dans des projets alternatifs agricoles. Vous voyez, alors la question ici n'est vraiment pas celle des frontières qui est la question des identitaires. Vous voyez, au contraire.
Mais l'absence de frontières, ça veut dire la dépossession.
Mais non, mais non, absolument pas. Parce que l'absence.
C'est
le
ce
concept.
Que vous dites.
Non, je dis le concept de. Si on parle du concept de frontières, le concept de frontières est un concept comme le concept de marchandise, si vous voulez, c'est un concept. Qui a une histoire très moderne, qui ne m'intéresse pas tellement. En réalité, ma question n'est pas les frontières, ma question est comment est-ce qu'on vit ? Et comment est-ce qu'on vit ? Et moi, je vis avec les gens qui sont à côté de moi et je ne demande pas quelles frontières ils ont franchies ou non. Vous voyez ? Et, c'est avec... et, alors, et là, si on revient à l'Eucharistie, parce que c'est quand même le sujet de mon livre, vous voyez, c'est précisément ça que nous raconte saint Paul. Vous voyez, c'est la possibilité de se rassembler autour d'une table et de partager le pain et le vin, c'est-à-dire les choses banales de la vie, avec qui que ce soit, quel que soit le sexe, la naissance, la religion d'origine.
Merci beaucoup Benoît Sibylle. Défense du pain et du vin chez Hatzolem. Je rappelle que vous enseignez la philosophie à l'ICP, même si c'est le temps du café en cette matinée. Je vous remercie d'être venu.
Merci beaucoup à vous.
À bientôt.
Merci beaucoup Louis Dauphren. Un entretien à retrouver sur le site rcf.fr et radionotredame.com. La matinale continue jusqu'à 10h sur RCF et Radio Notre-Dame.